Une discussion s'ouvrit bientôt entre Mao et Philippe. La comtesse d'Artois estimait que sa fille devait se transporter au palais dans l'instant afin d'y partager le logis de son époux. Celui-ci était d'avis contraire et désirait que Jeanne restât en l'hôtel d'Artois. Il avançait plusieurs arguments, fort bons en soi, mais qui ne découvraient pas le fond de sa pensée et qui d'ailleurs ne convainquirent pas Mao. Le palais pouvait être dans les jours à venir le siège d'assemblées violentes et de tumultes nuisibles à une parturiente. D'autre part, Philippe estimait plus séant d'attendre pour installer Jeanne au palais royal que Clément sût regagner Vincennes. « Mais il se peut que demain Jeanne soit empêchée tout à fait de bouger, » fit remarquer Mao. « N'avez-vous donc point désir que votre enfant voie le jour au palais ?»«
C'est cela justement que je voudrais éviter. »«
Là vraiment, je ne vous comprends point, mon fils !» dit Mao en haussant ses puissantes épaules. Cette controverse lassait Philippe. Il n'avait pas dormi depuis 36 heures, avait parcouru la nuit précédente 15 lieues à cheval et vécu ensuite la journée la plus difficile, la plus mouvementée de sa vie. Il sentait sa barbe pousser et ses paupières par instants se fermer d'elles-mêmes. Mais il était décidé à ne pas céder. « Mon lit, pensait-il, que l'on m'obéisse et que je gagne mon lit.
« Prenons donc l'avis de Jeanne, que souhaitez-vous, mamie ? » demanda-t-il.
Mao avait une intelligence d'homme, une volonté d'homme et un souci constant d'affirmer le prestige de sa race. Jeanne, de nature toute différente et infiniment plus réservée, semblait jusque-là désignée par le destin à n'occuper que les secondes places, et cela dans les honneurs comme dans les drames. D'abord fiancée à Louis Hutin pour être donnée ensuite par une sorte d'échange au second fils de Philippe le Bel, elle avait donc pu se croire un moment promise à devenir reine de Navarre et de France, avant de se voir supplantée par sa cousine Marguerite. Mêlée du plus près au scandale de la tour de Nesle, elle avait côtoyé l'adultère mais sans le commettre, et dans le châtiment, la réclusion perpétuelle lui avait été épargnée. Or, tandis que Marguerite, assassinée dans sa prison, n'était plus que poussière, tandis que Blanche continuait de se morfondre, toujours incarcérée, elle, à présent, avait retrouvé son époux, sa famille et sa situation à la cour. Instruite à la prudence par son année de détention à Dourdan, elle entendait ne rien compromettre. Il ne lui importait pas particulièrement que son enfant naquît au palais, et désireuse surtout de complaire son mari, dont elle devinait que l'insistance se fondait sur de solides raisons, elle répondit « C'est ici, ma mère, que je souhaite faire mes couches. Je m'y sentirai mieux. » Philippe la remercia d'un sourire. Assis dans un grand siège à dossier droit, les jambes allongées et croisées, il s'enquit du nom des matrones et ventrières qui devaient assister Jeanne, voulant savoir d'où chacune venait et si l'on pouvait leur accorder toute confiance. Il recommanda qu'on leur fît prêter serment, précaution qu'on ne prenait d'ordinaire que pour les accouchements royaux. « Que voilà un bon époux qui prend grand soin de moi !» pensait Jeanne en l'écoutant. Philippe exigea aussi que, dès l'instant où la comtesse de Poitiers entrerait dans les douleurs, les portes de l'hôtel d'Artois fussent fermées. Nul n'en devait plus sortir, à l'exception d'une seule personne chargée de lui porter la nouvelle de la naissance. « Vous !» dit-il en désignant Béatrice d'Hirson, qui assistait à l'entretien. « Les ordres seront donnés à mon chambellan pour que vous puissiez me joindre à toute heure, même si je suis en conseil. Et s'il se trouve compagnie autour de moi, vous ne me ferez l'annonce qu'à voix basse, sans en souffler mot à autrui, si c'est un fils. » Je me fie à vous, car je me rappelle que vous m'avez déjà bien servi.
Et davantage encore que vous ne le pensez, monseigneur, répondit Béatrice en inclinant légèrement la tête.
Mao lança un regard furieux à Béatrice, comme pour la rappeler à l'ordre. Cette fille, avec ses airs de lent, sa fausse naïveté, ses sournoises audaces, la faisait trembler. Mais Béatrice continuait de sourire. Le jeu des deux visages n'échappa pas à Jeanne. Entre sa mère et la demoiselle de Parage, elle sentait une épaisseur de secret qu'elle préférait ne pas chercher à percer. Elle tourna les yeux vers son mari. Celui-ci ne s'était aperçu de rien. La nuque appuyée au dossier de son siège, il venait de s'endormir d'un coup, foudroyé par le sommeil des victoires. Sur son long visage, d'ordinaire sévère, paraissait une expression de douceur attentive qui permettait d'imaginer l'enfant qu'il avait été. Jeanne, émue, s'approcha d'un pas prudent et vint lui poser au front un baiser sans poids.